politique antagoniste, celle qui s'incarnait dans le vote communiste et celle qui s'incarne dans le vote Front National. Ces deux modalités de se constituer soi-même comme sujet de la politique s'appuient sur des catégories différentes de perception et de division du monde. Ce sont des manières opposées, ou en tout cas divergentes, de découper la réalité sociale et d'essayer de peser sur les orientations politiques des gouvernants. Et l'une n'est pas toujours exclusive de l'autre.
Vous avez peut-être reconnu la voix de Adèle Haenel. Jean-Gabriel Perriot est ce soir notre invité à l'occasion de son nouveau film qui est sorti la semaine dernière et qui s'intitule « Retour à Reims » d'après le texte de Didier Héribon. Fragment, mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Michel Clou, duo « Qui je suis ».
Qui je suis ? Je viens. Qui je suis? D'où je viens? Un père ouvrier, une mère non déclarée, un père local, une mère.
Le cinéma, ça a commencé comme une vocation ou plutôt comme un engagement pour vous, Jean-Gabriel Perriot ?
Par un plaisir d'enfant. J'étais très cinéphile, ou plutôt cinéphage en fait. J'avais la chance que mes parents séparés habitaient chacun à côté d'un cinéma.
Ah bon, double dose alors ?
Double dose, et du coup j'y ai passé tous mes mercredis, mes matins, et voilà, et un jour je me suis dit que ça devait être un rêve d'enfant ou de jeune adolescent de me dire que ça devait être magnifique de faire ce métier-là.
Alors, dans un livre passionnant publié avec Alain Brossat, Ce que peut le cinéma, Conversation, vous dites que finalement, un jour, vous êtes devenu cinéaste parce qu'à force de voir des films, vous êtes dit, pourquoi pas moi?
C'est légèrement différent. C'est que je pense qu'à un moment, je cherchais dans le cinéma contemporain des films engagés, politiques, que je ne trouvais pas. C'est-à-dire que j'allais regarder beaucoup les années autour du cinéma des années 60, 70. Et c'est tout un cinéma que je ne retrouvais pas dans le cinéma contemporain de ces années-là.
C'est ce qu'on appelait le cinéma engagé, entre guillemets.
Oui.
Le cinéma qui parlait des ouvriers.
Mais pas forcément.
Des luttes contemporaines.
Sur beaucoup de choses différentes, simplement plus presque politique, en le cinéma engagé étant une partie de ce cinéma politique, en tout cas me manquait beaucoup, dans une époque politique qui était déjà troublée au début des années 2000, et à un moment je me suis dit, au lieu de râler et d'attendre ces films-là, je peux en faire en tout cas.
Mais c'est vrai que dans les années 70, aussi bien en Italie qu'en France, que dans certains pays qu'on appelait pays de l'Est, il y avait un cinéma, entre guillemets, engagé, sociétal, qui parlait du peuple, qui parlait des désirs de changement de société. Or, effectivement, ensuite, il y a eu une sorte de désert, vous diriez cela ?
Oui, alors c'est jamais un désert complet. Il y a quand même, on peut toujours trouver des exemples qui contredisent une généralité, mais en tout cas, il y avait tout un champ effectivement du cinéma qui avait disparu, parce que en plus à l'époque il y avait le cinéma, on va dire, un peu minoritaire dans sa production, mais il y avait aussi même le cinéma de studio. Il y avait quelques grands films de studio très forts, et quelque chose a changé, et en tout cas quelque chose, moi, me manquait de manière certaine.
Je vous propose d'écouter Jean-Luc Godard, que vous citez beaucoup et qui est un, je crois, de vos maîtres. C'était au moment du Festival de Cannes en 68, si j'ose dire Festival de Cannes en 68, puisque, on le sait, ce festival n'a pas pu avoir lieu, puisqu'il est devenu une foire d'empoigne idéologique et artistique. Il va parler du rôle du cinéma dans la politique. On l'écoute.
Il n'y a pas un seul film qui montre des problèmes ouvriers ou étudiants tels qu'ils se passent aujourd'hui. Il n'y en a pas un seul, qu'il soit fait par Forman, par moi, par Polanski, par François, il n'y en a pas. Nous sommes en retard. Nos camarades étudiants nous ont donné l'exemple en se faisant casser la figure il y a une semaine. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de ne pas continuer à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible, et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester, avec un retard d'une semaine et demie, la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France.
Je souhaite que le festival s'arrête.
Oui, mais...
Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers, et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes
pas
heureux,
Godard.
C'est étrange d'entendre ces propos de Jean-Luc Godard, qui ensuite va concrètement, artistiquement, suivre par le cinéma ce qu'il vient de dire, et il va s'engager à faire des films qui vont être des films trac, des films propagande, etc. Aujourd'hui, nous sommes entre les deux tours de l'élection présidentielle. Votre film Jean-Gabriel Périot est sorti la semaine dernière, donc c'est une adaptation, mais pas forcément uniquement une adaptation. En tout cas, c'est une interprétation de ce texte ô combien important de Didier Ribon, qui nous rejoindra en deuxième partie d'émission pour parler de son rapport par rapport à votre film Retour à Reims, qui parle justement du déclassement social, de la classe ouvrière qui n'est plus considérée par les partis institutionnels politiques, et de cette espèce de grande défaite morale du politique ou des partis politiques institutionnels par rapport à l'espérance du peuple. Est-ce qu'on peut dire que le cinéma est engagé aujourd'hui ? Il y a eu récemment des films qui parlaient de la politique de manière assez belle, frontale et citoyenne. Mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, en ce printemps 2022, il y a un cinéma directement politique, comme l'est votre film ?
Il y a quelque chose qui revient depuis quelques années, c'est encore assez récent. Ça a commencé par un retour du cinéma, on va dire clairement militant, avec donc un cinéma qui n'est pas forcément facile à trouver ou à voir, en tout cas pas sur les écrans de cinéma. Mais il y a une deuxième vague qui vient, là, pour le coup, qui arrive à aller jusqu'aux salles de cinéma, voir la télévision. Il y a plusieurs auteurs qui reviennent, effectivement, sur des films beaucoup plus politiques. Étonnamment, ce n'est pas que le documentaire. On est habitué à ce que le documentaire puisse être un peu plus engagé, mais on peut retrouver, comme dans le dernier film de Catherine Corsini, ou même sous d'autres formes, ou Istréam, indépendamment de ce qu'on peut penser des films, mais il y a un retour, en tout cas, du social, de la politique, même dans des, on va dire, des gros films français. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. Alors là, c'est vrai que ça fait un peu effet de masse, parce qu'avec la fermeture des salles pendant un an, d'un coup, tous ces films se retrouvent, mais il n'empêche que c'est assez étonnant. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose bouge, en tout cas, dans le champ des cinéastes, plutôt de la gauche, on va dire, qui d'un coup se réengagent aussi à travers leurs films.
Pour documenter le réel qui nous environne.
Oui, mais je pense que c'est un peu la suite de, je dirais, d'un contre-coup des Gilets jaunes. Comme si à un moment, les Gilets jaunes avaient donné mauvaise conscience à une partie, en tout cas, des intellectuels et des artistes de gauche, qui ont peut-être loupé quelque chose, pas forcément le mouvement lui-même, mais que...
Le mouvement lui-même a été documenté par des cinéastes, mais il n'en est pas resté encore aujourd'hui, au moment où nous parlons, de grands films.
Il y a pas mal de films qui sont autour des Gilets jaunes, et c'est vrai que le temps est étrange, parce qu'on a l'impression que les Gilets jaunes, c'est vrai que c'est déjà 2-3 ans, mais les films qui ont été faits à ce moment-là sortent aujourd'hui. Et vont continuer à sortir, donc on a un petit effet de décalage, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, malgré tout, des films de lutte, on va dire, des films qui suivent les luttes de cette qualité-là, comme le film d'Emmanuel Gras, ou de... Ça faisait, pour le coup, depuis 68, qu'on n'avait pas vu ces grands films qui suivent des luttes et qui restent du cinéma.
Donc, vous êtes plutôt optimiste aujourd'hui, Jean-Gabriel Périot. Vous dites que, après ce résultat des premiers tours... De manière concordante, il y a une sorte de réveil d'une partie du cinéma pour essayer de comprendre les réalités sociales qui nous échappent par les médias.
Disons que je lutte plutôt contre mon pessimisme. Donc il faut quand même essayer de voir ce qui, malgré tout, est possiblement trahi quelque chose qui est plutôt positif. Mais on le voit, c'est parallèle. Le cinéma est jamais isolé, ou l'art est jamais isolé, est toujours inscrit dans une société, et qu'on voit depuis quelques années, pas un renouveau des idées de la gauche, c'est pas ça, mais que quelque chose est en train de bouger, en tout cas. C'est un peu laboratoire. Mais on voit
qu'il y a les films d'Alice Diop aussi, qui nous indiquent une forme de cheminement, d'éveil, de citoyenneté.
Voilà, exactement. On voit, alors on n'a pas forcément, personne n'a les réponses, mais on sent qu'il y a une réinterrogation, en tout cas, des cadres de pensée de la gauche qui peut porter, pas forcément à l'optimisme, à tout craint, en se disant que tout va changer du jour au lendemain, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui se dessine à l'intérieur de ça, en tout cas, selon mon propre point de vue.
En tout cas, votre film tombe à point pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Mais auparavant, dans les années 68, il y avait un désir, comme l'a exprimé tout à l'heure Jean-Luc Godard, de documenter la réalité qui nous environne en donnant les caméras à chacun, chacune d'entre nous. Je vous propose d'écouter un document de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est Chris Marker, cinéaste ô combien vénéré. Il va nous expliquer qu'à l'époque, il voulait donner des appareils audiovisuels aux ouvriers pour que eux s'expriment directement et non pas par le tamis d'un regard professionnel. On écoute Chris Marker.
C'est peut-être pas par hasard qu'en même temps qu'on commençait cette entreprise dont on savait d'avance ses limitations et ses éléments d'échec. On avait quand même poursuivi une activité parallèle qui était celle d'un groupe de jeunes militants à qui on était entre les mains des caméras, des magnétophones. Avec cette hypothèse qui m'a paru toujours évidente, c'est que nous, on sera toujours au mieux des explorateurs bien intentionnés, plus ou moins sympathiques, mais de l'extérieur, et que, de même que pour sa libération, la représentation et l'expression du cinéma de la classe ouvrière sera son œuvre à elle-même. Et que c'est quand les ouvriers auront entre les mains les appareils audiovisuels qui nous montreront à nous les films sur la classe ouvrière, sur ce que c'est qu'une grève, sur ce que c'est que l'intérieur d'une usine. Mais je crois qu'on serait même 10 000 fois plus malin et moins romantique, qu'on serait quand même limité par cette espèce de réalité cinématographique qu'on expérimente tout le temps, qu'on aille chez les pingouins ou chez les ouvriers, que finalement on ne peut exprimer réellement que ce qu'on vit. Et quel film que vous souhaitez, finalement, mes enfants, c'est vous qui le ferez.
Alors voilà, Chris Marker était dans une frontalité par rapport au réel. La délégation de la responsabilité de ce que nous vivons appartient à celles et à ceux qui la vivent. finalement, on n'en est jamais arrivé là encore aujourd'hui, en ce printemps 2022, Jean-Gabriel Perriot.
Non, mais c'est, je ne suis pas sûr que ça soit possible. Alors, Chris Marker, grâce au groupe Medvedkin, a réussi une vraie expérience de cinéma qui fait que ces groupes d'ouvriers ont fait des films splendide, magnifique, mais on voit que sur d'autres types de coopératives ou d'essais qui ont été faits, finalement les films étaient mineurs ou ont disparu parce que les films n'étaient pas très intéressants. Les deux questions que ça pose, c'est est-ce que chaque personne avec une caméra devient un auteur, devient quelqu'un qui a un point de vue même sur sa propre expérience et essaie le transmettre par la caméra? On pourrait parler aussi de la musique ou de l'écriture et qu'en fait, faire de l'art ou adresser un discours, c'est une construction et que tout le monde n'a pas ni le goût ni l'intérêt pour ça et qu'il ne suffit pas de donner les outils techniques. Et l'autre chose qui me questionne, mais c'est quand il parle de filmer les pingouins ou les ouvriers, je pense que ça dépend aussi d'où l'on vient. C'est-à-dire que moi, je suis cinéaste, donc je suis décalé, je suis quelqu'un qui a le langage, qui peut énoncer des choses. Il n'empêche que mon quotidien, moi, reste très proche. Je ne suis pas totalement sorti de ma classe d'origine, une classe de laborieuse. Et que quand je fais un film comme Retour à Reims, je n'ai pas le point de vue sur cette histoire-là, comme dans les termes qu'emploie Chris Marker. Je ne regarde pas les ouvriers comme je regarde les pingouins. Je regarde les ouvriers comme je regarde mes cousins et mes cousines, comme je regarde mes parents. On peut être cinéaste et pour autant être proche de ce qu'on filme.
En tout cas, depuis longtemps, enfin depuis quelques années, Jean-Gabriel Perriot, vous nous avez amené un nouveau discours et une nouvelle manière de regard à l'intérieur de classes qui ne sont pas forcément mises en lumière, notamment à partir de votre film que vous avez sorti en 2015 qui s'intitulait « Une jeunesse allemande ». Et vous avez essayé, entre guillemets, de neutraliser, c'est-à-dire de suspendre notre jugement en nous apportant des éléments et en nous apportant des preuves de ce qu'avait pu être le mouvement de l'extrême gauche en Allemagne. Je vous propose d'écouter un court extrait de ce film qui a marqué nos esprits et qui s'intitulait « Une jeunesse allemande ».
L'Allemagne n'est pas stable. Je crois seulement dans la jeunesse.
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, les survivants préfèrent oublier, mais leurs enfants ont du mal à comprendre ces images.
Das Phänomen ist nun aber, dass Autoritäten unglaubwürdig geworden sind, sondern wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss.
In Frankfurt am Main explodieren am 11. Mai 3 Bomben. In einem Bekennerschreiben verlangt die RAF eine Beendigung des Vietnamkriegs.
Wir haben die Gewalt nicht erfunden. Wir haben sie vorgefunden.
Alle Angeklagten stammen aus sogenannten geordneten Verhältnissen. Wie kommen sie zu ihrer Tat? Vor allem...
Nein, meine Damen, das sind keine kritischen Geister, das sind destruktive Geister.
La seule chose où l'Allemagne est vraiment sûre, c'est dans la jeunesse.
Nous venons d'entendre donc une bande-annonce de votre film signé en 2015, Jean-Gabriel Perriot, Une jeunesse allemande. Et là, c'est la même méthode que vous utilisez avec Retour à Reims, même si entre-temps, il y a eu ce film Nos défaites en 2019, c'est-à-dire une construction extrêmement élaborée, un apport d'archives exceptionnel, un montage très serré et un univers mental que vous nous permettez à nous, spectatrices et spectateurs, par l'utilisation de musique. Comme si le réel de ces histoires tragiques, comme l'histoire de cette jeunesse allemande fracassée il y a quelques décennies maintenant, comme si le réel pouvait être traduit par la réalité des archives que vous faites revivre. Est-ce une forme de cinéma vérité pour vous, Jean-Gabriel Perriot ?
Je ne sais pas si je l'emploierais comme ça, mais en tout cas, il y a quelque chose dans les archives. Quand l'archive est exploitée de la même manière que je le fais moi, c'est-à-dire quand elle n'est pas précédée d'une voix off qui nous indique, qui nous contextualise déjà historiquement où c'est, donc qui nous renvoie, qui inscrit l'archive au passé, et quand il n'y a pas une voix off qui juge ou qui donne des éléments de
c'est
d'explication.
C'est ça, l'absence de jugement. Voilà. On ressort de vos films sans jugement.
Non,
suspension du jugement.
Oui, moi, ça me paraît important de donner des éléments du réel tel qu'il a été, même si c'est une question de représentation, mais en tout cas, ça donne des indices sur ce qu'a été une réalité historique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est essayer de poser des questions, de faire surgir des doutes, mais pour moi-même, avant le spectateur, d'essayer de peut-être de comprendre quelque chose à travers le montage et de transmettre ces questions au spectateur. Moi, je suis pas là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est révolu, ça a changé, ça au contraire. Oui, il y a dans cette expérience quelque chose qui résonne avec aujourd'hui. Moi, je suis pas là pour prendre le spectateur par la main. Je pense que, évidemment, j'ai un avis sur le monde tel qu'il va ou sur le sujet de mes films. Mais mon avis, il est totalement subsidiaire. Il n'intéresse personne. Et par contre, il faut que le spectateur, lui, puisse se saisir de ces questions-là et y apporter, s'il le veut, ou si elle le veut, ses réponses éventuelles ou aller réfléchir, creuser un peu. Mais je suis pas là pour essayer de faire changer ce que pensent les spectateurs et les spectatrices. Je suis là au mieux pour poser des questions à partir d'un réel, effectivement, qui s'ancre dans l'archive.
On peut dire que vous avez deux obsessions. C'est effectivement l'approche du réel, donc l'approche d'une certaine vérité. Et puis aussi, la jeunesse, ce que pense la jeunesse. Je parlais de Nos défaites, qui est un film extrêmement intéressant à revoir aujourd'hui dans cet entre-deux-tours présidentiel, où vous avez essayé de comprendre au plus près les attentes et les espoirs de notre jeunesse par rapport à un monde politique qui leur paraît très loin, trop loin.
Oui, je pense, parce que c'est mon côté peut-être un peu optimiste dont je parlais tout à l'heure, je pense que c'est la jeunesse qui construit le monde. C'est à eux de construire le monde dans lequel ils veulent vivre. Et d'autant plus, je pense, aujourd'hui, dans un monde qui est encore plus fracturé et encore plus violent. Même si nous, par exemple, dans ma génération, il y avait déjà les questions écologiques, elles n'étaient pas aussi urgentes et violentes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, là, on parle de survie de l'humanité, même en cas de guerre avec le nucléaire, enfin, des choses. Je trouve que quand on a 18, 20 ans ou 16 ans et qu'on vit dans ce monde-là, il faut tout reconstruire et malheureusement, enfin, c'est à eux de le faire et ça ne peut advenir que par eux, quel que soit ce monde-là, mais c'est eux qui ont les clés, même si parfois je suis surpris, c'était comme Nos défaites, qu'on ne les aide pas beaucoup.
Vous citez à l'intérieur du livre d'entretien que vous avez fait avec Alain Brossa, beaucoup, finalement, Jean Rouch. Jean Rouch est un de vos maîtres. Jean Rouch était à la fois anthropologue, ethnologue et cinéaste. Je vous propose de l'écouter. C'est une archivina du 18 janvier 76. On va écouter la voix de Jean Rouch à propos du cinéma vérité, car je pense que vous êtes le petit-fils de Jean Rouch. Vous pratiquez le cinéma vérité, Jean-Gabriel Périot. Et ensuite, nous entendrons un court extrait d'un très beau film de Jean Rouch qui s'intitule « Chronique d'un été ».
C'est-à-dire que là-dedans, il y a toute une série d'intermédiaires, et que ces intermédiaires sont des intermédiaires mensongers. Nous rétrécissons le temps, nous l'allongeons, nous choisissons un angle de prise de vue, nous déformons les personnages, nous accélérons un mouvement, et nous suivons ce mouvement au détriment d'un autre mouvement. Donc il y a là tout un travail, un travail de mensonge. Mais, si vous voulez, en nous revendiquant quand même ce terme, en ce sens que pour moi, ce mensonge était plus réel que la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes et de faits humains qui nous entourent, de témoignages, qui ne peuvent être que des témoignages mensongers, qui sont ce que disent des gens dans un certain état qui ne diraient jamais autrement. Qui sont le fait que, par exemple, ce que je dis devant ce micro, je ne le dirais pas si nous étions en face d'un pot de bière, simplement parce qu'il y a un micro. Il y a donc là un phénomène très étrange, et ce phénomène très étrange est une sorte de catalyseur qui permet de révéler sans doute une partie entièrement fictive de chacun d'entre nous, mais qui pour moi est la facette la plus réelle de l'individu.
Alors qu'on a rêvé, enfin, un moment de passion, de choses très belles, on s'aperçoit, enfin je suis obligé de m'apercevoir, enfin je sais pas si tout le monde s'en aperçoit, enfin moi je suis obligé de m'apercevoir, enfin, que tout est fait de demi-teintes, des tons très neutres. C'est pas du noir et blanc, c'est du gris sur gris, enfin, un gris un peu plus foncé, un gris un peu moins foncé. C'est emmerdant. Tu comprends?
Tu as quelque chose à dire, Marceline?
J'ai à dire que je me sens très responsable de ça. Parce que c'est par moi, d'une part, que tu as connu tous ces gens qui étaient prêts de pleurer après leurs expériences politiques. Moi-même, d'ailleurs. Et puis, quand tu parles d'avoir voulu rendre une femme heureuse, je sais que c'est moi. Alors, je me sens un peu responsable de toutes tes impuissances dans la mesure où je t'ai fait sortir du courant dans lequel tu devais rester, peut-être.
Comment définiriez-vous aujourd'hui le cinéma vérité et existe-t-il? Moi, j'ai l'impression que vous faites du cinéma vérité. En tout cas, c'est ce que vous cherchez, j'ai l'impression, dans vos films, Jean-Gabriel.
En tout cas, j'aime beaucoup. Je ne connaissais pas cet extrait là de Jean Rouch. J'aime beaucoup quand il dit que le cinéma vérité aussi, c'est un cinéma de mensonges. Que évidemment, quand on filme, on cadre, etc. Alors moi, je filme pas ou peu, mais je pourrais dire la même chose du montage. C'est-à-dire que
peut-être... Oui, alors faut expliquer. Vous filmez pas parce que vous travaillez à partir d'archives déjà existantes.
Oui, la plupart de mes films, oui, sont quasiment faits avec que de l'archive. Mais je trouve que dans le montage...
Mais n'empêche que vous sélectionnez à l'intérieur du réel et des représentations des images qui proviennent du réel, une sélection qui fait que vous filmiez. On peut dire que vous filmez, Jean-Gabriel.
Peut-être, je...
Walter Benjamin utilisait des citations à l'intérieur de la littérature et de la poésie, en faisait des textes. Est-ce que on peut prendre cette comparaison? Est-ce que vous êtes aussi un cinéaste du réel et de la vérité, même si vous ne... tournez pas avec une caméra à l'épaule. Et si vous passez vos nuits et vos jours dans des salles de montage à visionner?
Oui, mais je le dirais comme Jean Rouch, c'est-à-dire c'est que je sais qu'on est qu'est-ce qui est de l'ordre du faux et du vrai à l'intérieur des images que j'utilise.
Alors
que
pourquoi et comment?
Parce qu'en fait, on sait qu'on parle au niveau de la représentation. C'est-à-dire c'est pas tant le monde tel qu'il existe, que l'on a sous les yeux, que comment il est représenté, comment il est dit. Et il a raison, Jean Rouch, ça veut dire que quand il parle des interviews, par exemple, que les gens ne parleraient pas pareil. Si on prend Retour à Reims, quand les deux premiers tiers du film, on a des gens qui s'expriment, par exemple, qui parlent de leurs conditions. Ils s'expriment, on le voit très clairement comme ça, parce qu'ils sont filmés et qu'ils savent que leur discours va être entendu par d'autres. Donc il y a une espèce de fierté, par exemple, dans leur manière de parler. D'un côté, ces extraits n'existeraient pas s'ils n'avaient pas été filmés. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas cette qualité de langage, il n'y avait pas eu de caméra. Et en même temps, il y a cette petite chose en plus qui dénote ou qui trahit, malgré tout, quelque chose de ceux et de celles qui parlent. Donc c'est un autre réel, c'est un autre niveau de réel, ça passe par la représentation, mais pour autant ce n'est pas tout à fait de l'ordre du faux, non plus. C'est quelque chose...
De la mise en scène de la parole, alors.
La mise en scène de la parole, mais ce qui est... Il y a pas de... La parole pure, presque anthropologique, elle n'existe pas. Elle est toujours médiée, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir que... On est dans un entre-deux, et c'est là qu'on peut toucher quelque chose d'une l'ordre d'une justesse, on va dire, sans tricher, sans prétendre qu'on est ni du réel, ni totalement dans la fabrication, que quelque chose se trahit toujours du monde à l'intérieur de ces images-là.
Ben, je vous propose d'écouter un extrait de votre film, sorti donc la semaine dernière, actuellement sur les écrans, adaptation de Retour à Reims, fragment, Le travail à la chaîne.
J'ai du mal à toucher Dominique le soir, ça me fait mal aux mains. La gamine, quand elle la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. Ils ont bouffé les mains. J'ai envie de faire un tas de choses, et puis je me vois maintenant avec un marteau, je sais à peine mon cerveau. C'est tout ça, tu comprends. T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire, que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves, tout t'énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne, puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur, la chaîne. Moi, maintenant, je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur qui mutile encore davantage. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. C'est de la survie qu'on fait. De toute façon, la première de vie d'un OS, c'est de 59 ans.
Mon père travaillait en usine jusqu'à 56 ans, quand il fut mis en pré-retraite sans qu'on lui demande son avis, la même année que ma mère, à l'âge de 55 ans. Tous deux rejetés par le système qui les avait exploités sans vergogne. Lui, désemparé de se trouver désœuvré. Elle, assez heureuse de quitter un lieu de travail, où les tâches étaient harassantes à un point que ne peuvent imaginer ceux qui n'en firent jamais l'expérience. Et où le bruit, la chaleur, la répétition quotidienne des gestes mécaniques rongent à petit feu les organismes les plus résistants.
Votre film, Jean-Gabriel Perriot, est bouleversant à bien des niveaux et pour bien des raisons. À cause de la justesse, c'est le mot que vous avez employé, et grâce aussi au travail de pépites et de grands chercheurs que vous avez dû faire pendant, j'imagine, très très longtemps pour trouver des archives de la télévision à l'intérieur de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et personnellement, mais je ne suis pas la seule, j'ai l'impression que la télévision d'avant donnait plus la parole à ce qu'on appelait les gens de peu. Et que les paroles que vous arrivez à nous restituer par le biais de votre film, Retour à Reims, Fragment, sont des paroles qui aujourd'hui n'existeraient peut-être plus, ne peuvent pas être archivées, parce que tout simplement, elles ne sont plus tournées. On ne va plus chercher ces paroles-là.
Oui, oui, exactement. On voit dans le film une histoire de la télévision, du cinéma et de la télévision, et on voit très bien qu'il y a eu un temps assez long qui était très différent d'aujourd'hui. Alors, deux choses expliquent le fait qu'on puisse trouver de tels films à la télévision, qui était à la fois l'idée d'une télévision qui devait, parce qu'elle était nationale, s'intéresser à l'ensemble du corps social. Moi, j'ai beaucoup utilisé une émission qui était consacrée aux femmes tous les mercredis, ou une émission qui s'appelle 16 millions de jeunes, qui était une hebdomadaire. Et pendant ce type d'émission, aller explorer différents types de situations de vie. Et vraiment tout. Et donc, on a des films sur les paysans, sur les ouvriers, sur plein de sujets liés aux classes populaires. Alors, c'était pas tous les jours, mais ça faisait partie. Voilà, il y avait cette volonté de représenter l'ensemble du corps social de la France dans sa diversité. Que ça, c'est quelque chose qui a disparu. Et l'autre chose aussi, c'est la qualité du temps de ces années-là, jusqu'au bouleversement technique de la fin des années 70 à la télévision, avec l'éruption de la vidéo. Grosso modo, la télévision, c'était entre le cinéma un peu ethnographique et la radio filmée. C'est-à-dire, on laissait parler les gens très longtemps. Alors, on se rappelle des grandes interviews d'hommes politiques, par exemple, ou d'artistes qui duraient 2 heures, où les gens n'étaient pas interrompus. Mais il y avait pareil aussi dans ces émissions de la journée où, ben, des fois, oui, une ouvrière peut avoir une émission à elle seule d'une heure. Et ça, c'est quelque chose qui a radicalement, effectivement, disparu, sauf dans quelques films documentaires dans lesquels on peut trouver ce type de parole, mais en tout cas, exceptionnellement, très rarement à la télévision.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Nous allons écouter Isabelle Aubray. Isabelle Aubray, c'est votre choix musical, Jean-Gabriel Perriot. Mais je précise aussi que cette merveilleuse chanson d'Isabelle Aubray est au cœur de votre nouveau film Retour à Reims, Fragment. On l'écoute.
On se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire 3 ou 4 enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Le dire, on ne voit pas le temps passer. Une odeur de café qui fume, et voilà tout son univers. Mes enfants jouent, le mari fume, les jours s'écoulent à l'envers. À peine voit-on ses enfants naître qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on n'étend plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches qu'un costume frère passé, quelques fleurs ou bien quelques branches décorant la salle à manger. Quand toute une vie se résume en millions de pas dérisoires, prise comme marteau et enclume entre une table et une armoire, faut-il pleurer? Faut-il en rire? Fait-elle envie ou bien pitié? Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer.
Didier Ribon, vous êtes là au téléphone ?
Je suis là, en effet, oui.
Ben, merci. Bonjour. Beaucoup. Bonjour. Merci de nous accompagner pour cet entretien, donc, avec Jean-Gabriel Perriot à propos de ce film qui est sorti la semaine dernière, qui est une adaptation, je ne sais pas si c'est le terme qui vous convient aussi à vous, Didier. J'avoue que Retour à Reims est un texte que vous avez signé il y a maintenant combien de temps ?
12 ans. 12 ans. Il est sorti en octobre 2009.
Eh ben, je me souviens bien, moi, de la... enfin, du coup de foudre que j'ai eu pour votre texte, qui m'a paru tout de suite à la fois important politiquement et en même temps extraordinaire sur le plan de la démarche personnelle, mais aussi politique au sens le plus haut du terme. Mais si mes souvenirs sont exacts, il a fallu quelques années pour que le cercle d'électrices et d'électeurs s'élargisse et que ce texte fondateur, qui renouvelle, je crois, le champ sociologique après Bourdieu, puisse trouver véritablement sa résonance. Je me trompe, Didier ?
Oui, en partie, parce qu'en fait, quand il est sorti en octobre 2009, il y a eu pas mal d'articles, d'émissions à la radio, d'articles dans les journaux. Il y a notamment eu un compte-rendu très chaleureux de Annie Ernaux et d'autres compte-rendus qui étaient tout aussi chaleureux. Et donc, le livre est resté dans les listes de best-sellers assez longtemps. Mais c'est vrai qu'il l'a connu... C'est un peu bizarre de ma part de parler comme ça. Il a connu un rayonnement de plus en plus grand, notamment grâce aux adaptations théâtrales, au Festival d'Avignon, en Allemagne, en Pologne, en Suède, puis au Brésil, en Argentine. Donc le livre s'est mis à rayonner comme ça internationalement, faisant retour vers la France, a renforcé l'intérêt que les lecteurs trouvaient à ce livre. Et évidemment, les situations politiques que nous vivons sur la question du rapport des classes populaires et de la classe ouvrière à la politique, évidemment, ont donné des coups de projecteur sur mon livre et ont fait qu'il a été cité dans beaucoup de discussions en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne ou aux Pays-Bas, enfin dans de nombreux pays.
Alors, il sort aujourd'hui, il est visible dans cette période de l'entre-deux-tours présidentiel et c'est un film essentiel pour comprendre peut-être les cheminements, les affaissements, les lignes de fracture de la démocratie que nous vivons en ce moment, pour comprendre aussi l'augmentation quasi systémique de l'extrême droite dans notre propre pays. Je voudrais d'abord poser la question à Jean-Gabriel Perriot, puisque Didier Ribon, vous venez de dire de manière assez modeste qu'il a résonné internationalement. Effectivement, comment vous l'avez lu et pourquoi vous l'avez lu et comment a résonné ce texte à l'intérieur de vous, Jean-Gabriel Perriot, la première fois ?
La première fois, j'étais. Ce qui m'avait le plus touché, c'était tout ce que je partage de la vie de Didier Ribon, que ce soit sa famille ou ma propre expérience de vie, de transfuge, provincial, homosexuel, enfin tout ça. Et j'avais un souvenir, on va dire, sentimental au livre.
Mais vous avez raison de souligner ce côté sentimental. Ouais.
Et c'est en le relisant avec l'idée d'en faire un film que ma lecture a forcément changé. Et que, étonnamment, j'avais sous-estimé une partie du livre qui est un peu l'histoire politique du livre, qui devient le cœur, moi, de l'adaptation. Et notamment toutes les pages de tentatives, d'explications du geste de la mère de Didier de voter Front National. Et à partir de là, voilà, là je
me suis... Elle qui votait avant communiste.
Elle qui votait avant communiste. Et je me suis dit, moi, si j'ai un film à faire à partir du livre dans la France d'aujourd'hui, donc la France d'il y a 2 ou 3 ans, mais qui est la même que celle d'aujourd'hui ou que celle des années précédentes, là j'ai quelque chose à transmettre à partir du livre qui est pour moi urgent. Cette tentative d'explication, au moins d'un geste particulier qui est celui de la mère de Didier et qui nous renseigne beaucoup, qui nous donne beaucoup de clés de compréhension.
Didier Ribon.
Oui, en fait, quand Jean-Gabriel, dans son adaptation, les fragments qu'il a retenus sont les, disons, essaie de constituer une histoire de la classe ouvrière des années 50 à nos jours, notamment comment des pans entiers des classes populaires sont passés du vote à gauche à un vote à l'extrême droite ou à l'abstention. Moi, quand j'ai écrit ce livre, ce phénomène commençait seulement à se manifester avec une certaine insistance. Et j'ai observé ça dans ma famille, où quand j'étais enfant, toute ma famille votait pour le Parti communiste. On disait pas le Parti communiste, on disait le parti. C'était une culture du communiste qui tissait les conversations de tous les jours. Et puis, j'ai vu dans les années 80 que ma famille, notamment ma mère, avait commencé à voter pour le Front National. Et au lieu de juger, que ça m'ait fait très plaisir, mais j'ai voulu essayer de comprendre ce qui s'était passé, comment j'ai interrogé ma mère, comment ce phénomène, ce processus s'était produit, sa colère contre les partis de gauche qui avaient abandonné les classes populaires, qui ne se sentaient plus représentées, et quand on ne se sent pas représenté par un parti, eh bien on ne vote plus pour ce parti, on vote pour un autre, et c'est tout à fait ce qui s'est passé. Donc j'ai un peu saisi cette transformation électorale au moment où elle se produisait, et je peux dire que malheureusement, quelqu'un en Allemagne a écrit récemment que j'étais un prophète. Malheureusement, je dois reconnaître que d'une certaine manière, cette analyse était prophétique.
Alors, il y a une dimension à l'intérieur de l'adaptation de Jean-Gabriel Périot qui est une démarche philosophique qui s'apparente peut-être à celle qu'a pratiquée Michel Foucault, dont vous êtes un des grands spécialistes, Didier Ribon. Je veux dire par là qu'il y a une généalogie corporelle du biopolitique et que tout le premier tiers du film de Jean-Gabriel s'attache à faire parler des femmes qui sont de la génération de votre mère, des femmes qui nous parlent face caméra et des femmes qui nous expliquent la domination et la manière dont elles ont du mal à résister à cette domination. Est-ce que cette dimension individuelle qui rejoint le collectif de nos représentations vous a personnellement touché, Didier Ribon ?
Plus que ça, ça m'a bouleversé, parce que quand on fait un livre, on peut décrire les corps, on peut analyser comment les corps sont atteints par la dureté des tâches, des métiers, des conditions de vie. Mais on ne peut pas, comment dire, les animer, il n'y a pas de vidéo dans le livre. Et là, dans les archives qui sont présentées, mises en valeur dans le film de Jean-Gabriel, on voit les corps, on voit les voix, on voit les gestes, on voit le détail des corps, on voit comment les visages sont marqués par la violence, par la violence sociale. On voit ce que c'est que l'exploitation, que la domination. Et ces femmes, ces hommes aussi d'ailleurs, sont des corps usés, abîmés. Souvent, on ne peut même pas leur donner un âge tellement le corps est usé, abîmé, les voix, les regards. Et ça, en voyant le film de Jean-Gabriel, c'était les femmes, c'était ma mère, mes grands-mères, les femmes de ma famille, le monde de mon enfance qui ressurgissait sous mes yeux. Toutes ces femmes qui parlaient avec une sorte de révolte sourde dans la voix, mais aussi une profonde résignation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Fallait bien travailler, fallait bien gagner notre vie, etc. Et montrer ces corps, simplement les montrer, faire entendre ces voix de ces personnes donne une dimension comme ça assez bouleversante. C'est plus des individus, c'est l'histoire d'une classe et c'est l'histoire d'un système social. C'est l'histoire d'une violence sociale. La protestation sociale ne trouve plus à s'exprimer autrement, malheureusement, que dans des manifestations qui sont violemment réprimées par le pouvoir ou bien dans le vote pour le Front National, donc le Rassemblement National. Le film de Jean-Gabriel restitue la démarche de mon livre à sa manière, parce qu'évidemment, quand on adapte un livre de 250 pages dans un film d'une heure et demie, on est obligé de faire des choix, donc les choix de Jean-Gabriel m'ont semblé très, très judicieux, mais il fait passer l'intention du livre, la démarche du livre, et si je puis dire comme ça, la profonde révolte qui traverse toute la démarche de mon livre.
Alors aujourd'hui, on se retrouve entre les deux tours. Je voulais savoir quels étaient les effets du film dans cette période très particulière que nous traversons. Et j'ai cru comprendre que dans votre dernier tiers de film, Jean-Gabriel Périot, il y avait pas du tout de désenchantement, mais une possibilité d'éveil citoyen, et je dirais presque même, un mot qui n'est guère utilisé par les femmes et les hommes politiques aujourd'hui, un gros mot en politique, de l'espoir. Jean-Gabriel Périot.
Moi, j'ai écrit l'épilogue du film, c'est-à-dire le moment où je sors du livre pour essayer d'interroger ce que je vois d'aujourd'hui, d'une histoire qui poursuivrait celle qui est décrite dans le livre. J'ai essayé de retranscrire ce qui, moi, comme je le disais au début de l'émission, malgré tout me pousse à l'espoir, c'est-à-dire de voir les gens encore dans la rue, les corps avec des choses très différentes, des combats différents, mais des fois qui commencent à se rejoindre. En tout cas, il y a une énergie qui me semblait importante plutôt que finir le film sur tout ce qui n'allait pas aujourd'hui. Il me semble que c'est, on fait, un film doit finir par quelque chose d'optimiste, sinon on fait pas de film. C'est pas le rôle du cinéma, je pense, d'abattre ou d'attrister les spectateurs. Mais après, ça dépend beaucoup. C'est assez étonnant quand le film, je le présente beaucoup, je débat, ça dépend. Les spectateurs ont des visions très, très différentes de cette fin du film. Par exemple, les militants, on va dire classiques, de partis politiques, considèrent cette fin comme un peu gloubi-boulga, pour reprendre leur mot, un mot qui revient souvent, parce que pour certains, la politique n'existe que dans les formes instituées. Et du coup, c'est dur de se projeter dans cette effervescence que décrit le film, qui mélange les gilets jaunes avec les mouvements sociaux, les luttes féministes, les luttes pour l'écologie. Pour certains spectateurs, tout ça ne fait pas sens mis ensemble. Mais en tout cas, certains spectateurs ressentent en tout cas, moi, cet appel à l'espoir qui est à l'intérieur, et de toute façon on ne peut continuer à vivre que dans l'espoir, sinon il faut s'arrêter tout de suite. Si on n'a pas de principe d'espérance, tout est déjà vain d'une certaine manière.
Une forme de résistance se lève à la fin du film de Jean-Gabriel Périot. Avez-vous, vous, Didier Ribon, ressenti la même chose, et une sorte d'espoir de lutte contemporaine qui vont peut-être s'élargir?
Oui, bien sûr, parce que dans mon livre, donc en 2009, je disais qu'il n'y avait pas de fatalité au vote à l'extrême droite des classes populaires, ce sont des processus qui ont mis 20 ans à s'installer et qui ne vont pas, on ne va pas revenir là-dessus par un coup de baguette magique. Il va falloir des années et des années pour reconstituer une conscience de gauche, un regard de gauche dans les classes populaires. Or, comme on ne peut pas compter sur les partis, je comptais beaucoup, et je le disais, sur les mobilisations sociales, les mouvements sociaux, associatifs, syndicaux, etc. Et ensuite, les partis sont obligés de suivre ce qui se passe dans la société. Mais alors, évidemment, la classe ouvrière aujourd'hui n'est plus la même que dans les années 50-60, quand mes parents étaient ouvriers. Aujourd'hui, il y a moins les grandes usines avec des milliers d'ouvriers et d'ouvrières. Ce sont les métiers de la logistique, les entrepôts d'Amazon, etc., où évidemment la syndicalisation est plus difficile, plus risquée. Les formes de protestation prennent évidemment une physionomie tout à fait différente, et ça a été les manifestations des Gilets jaunes. J'ai regardé avec une distance critique le mouvement des Gilets jaunes, mais je l'ai également toujours soutenu contre les attaques, souvent avec beaucoup de mépris de classe, contre ces mobilisations et les gens qui les faisaient exister. Donc il y a des formes de mobilisation auxquels nous pouvons essayer de contribuer, et le sens de mobilisation n'est jamais donné à l'avance, et nous pouvons participer à l'élaboration du sens de ces mobilisations. Et donc, moi, j'ai plutôt de l'espoir. Malheureusement, les récents résultats électoraux ne donnent pas beaucoup d'espoir, mais en même temps, on voit ressurgir une gauche qui s'intéresse aux mouvements sociaux, qui s'intéresse aux quartiers populaires, et on voit quand les quartiers populaires vont voter, ils peuvent ne plus voter pour le Rassemblement national, mais voter pour la France insoumise. Et donc, moi, je vois dans tout cela, oui, on peut dire une sorte d'espoir, un espoir tempéré par un certain réalisme qui, malheureusement, ne pousse pas à un grand enthousiasme. Mais malgré tout, on peut penser que dans les années qui vont venir, les mobilisations sociales vont transformer le climat et le paysage politique.
Merci infiniment à vous deux. Merci beaucoup Didier Ribon. Je rappelle que votre livre « Toi à Reims » est disponible en livre de poche. Et merci aussi beaucoup à vous Jean-Gabriel Périot. Je rappelle que votre film est actuellement sur les écrans en France et qu'il s'intitule « Retour à Reims, fragment ». Merci à vous deux.
Merci.
Keep trying, and so on it goes.
c'est avec Courtney et Barnett que nous allons nous quitter. Merci encore à vous deux. Je rappelle que le film de Jean Gabriel est en ce moment visible sur tous les écrans en France et qui s'intitule Retour à Reims, fragment. Merci à Elisabeth Collet qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément. Merci à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux. Et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, à réaliser cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Sayas pour la suite de son Very Good Trip.